cause, quelque chose qui me semble important, même s'il n'est pas au centre, a priori, des questionnements du Centre national des écritures du spectacle, c'est finalement cette présence permanente, implicite et par moments visible, des arts de la marionnette à la Chartreuse. C'est égoïste, non, c'est juste la suite logique d'un projet de direction qui était sur les écritures du spectacle, mais dont un chapitre pensait que être auteur ou autrice aujourd'hui, c'est beaucoup travailler sur les corps des vivants, c'est beaucoup écrire pour et avec les corps des vivants, c'est écrire aussi avec les chorégraphes, c'est écrire aussi avec les vidéastes. Mais finalement, il y a un moment où le travail de l'auteur, quand il peut se séparer de la question du corps vivant enfermé dans son réalisme et peut-être partir dans des dimensions et des distances multiples, à ce moment-là, il découvre un autre stade de l'écriture. Donc, et d'autres possibles. Donc en fait, notre rencontre demain, c'est un séminaire sérieux et important. C'était aussi, mais tout à fait. Parce que
tu t'es dramatisé.
Et en effet, il y avait l'idée de recevoir aussi l'émotion d'artistes qui sont à la fois de la mémoire vivante, de l'action. Aujourd'hui, de l'interrogation. Ça continue à travailler, ça continue à questionner. Et sur un sujet brûlant, si je peux le dire comme ça, sans mauvais jeu de mots, et de se dire qu'on fonde en permanence ce qu'on fait ici, à la Chartreuse, sur l'ensemble des données qui ont existé ici depuis 50 et un peu plus de 50 années. Vous ne pouvez inventer qu'en repartant à la source. Vous n'inventez rien sur la personne qui était juste avant vous, parce qu'elle était dans le même embourbier que vous. Vous repartez à la source, parce qu'à la source, et il y a certainement les belles intuitions, les visions qui sont, elles, régénératrices d'une pensée qu'on doit penser aujourd'hui. Et quand Didier, on s'est parlé de ça, et maintenant je vais être un peu plus sérieuse, je me suis dit, on ne peut pas poser petit à petit là la question et la présence permanente des arts de la marionnette et de l'objet animé à la Chartreuse sans revenir, sans travailler en permanence sur ce qui en fait la particularité, la question dramaturgique particulière et que, après tout, on était un super endroit. Merci de nous avoir sollicités. Merci de nous avoir sollicités, c'est comme merci à Michel de demander de venir travailler, à Dominique, pardon, de venir travailler ici avec Jeanne, parce que c'est normal, c'est leur endroit, c'est un endroit de travail. Il n'y a absolument aucun cadeau qu'on fait à ces grands artistes quand on leur dit viens travailler, parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup de pensées multiples, à la fois sur qu'est-ce que c'est le contemporain et qui n'est pas l'actuel, qu'est-ce que c'est un récit et une dramaturgie de récit, voilà, comment ça tient, et puis qu'est-ce que c'est travailler avec de multiples générations sur un plateau où la plus jeune n'est pas forcément celle qu'on pense dans sa manière d'être et la lumière qu'elle porte, cela étant dit, parce qu'ils ne sont pas là, c'est fort agréable d'en faire tous ces compliments-là qui ne sont pas vains. Donc en fait, un jour, Didier Plassard, ici à ma gauche, dit « Je travaille, et toi aussi, nous travaillons en équipe sur la dramaturgie et la marionnette. » Je le dis vraiment de manière très naïve, volontairement. Et demain, eh bien, c'est un des multiples rendez-vous que vous avez pendant plusieurs années sur cette question-là. Est-ce qu'on peut revenir justement, comme je disais, à la question première, celle qui vous a rassemblé? Oui. Tu peux prendre un micro si tu veux.
Oui,
ce sera plus. Parce que moi j'ai plutôt normalement une formation de comédienne, mais vas-y.
Bon, effectivement, je n'ai pas de formation de comédien. Il faut appuyer quelque part.
Fonctionne, tu crois? Je pense qu'il y en a là qui n'a pas une fonction de régisseuse, mais qui peut y arriver.
Mais.
si, elle va y arriver.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Si, elle a fait des cours.
Parce que sans lumière, cette petite lumière verte, généralement.
La petite lumière verte, tu vois. Attends. L'autre. No. C'est là. Attends, j'essaie le mien.
Tac. Oui, non. 1, 2, 3.
T'es sûr?
Après, je peux pas faire.
Tu peux monter
après,
les deux là. Allez,
j'ai une
essayons.
D'enseignant-chercheur, quand même.
Oui, t'as une formation dans des amphithéâtres,
aussi,
quand même.
Voilà, il faut aussi porter la voix, donc non, on y arrivera.
Vas-y.
On va y arriver. Alors, il y a plusieurs, quand même plusieurs questions dans ce que tu évoques. Il y a un peu la question du projet européen que j'ai dirigé, auquel Carole et Francesca donc, ont participé, et pour lesquels vraiment elles ont l'une et l'autre énormément travaillé. Mais il y a aussi la question de la dramaturgie pour marionnettes et l'histoire de la chartreuse, et puis aussi les émotions, les sensations que nous venons de recevoir, de ressentir grâce à Dominique et Jeanne et à leur proposition artistique. Donc c'est beaucoup de points. Alors pour commencer, je vais essayer d'être le plus concret possible. L'idée du projet européen effectivement financé, c'est maintenant du passé, c'était de 2019 à 2025, pendant 6 ans, financé donc par l'Union européenne. C'est un projet qui avait effectivement pour ambition de réunir, de faire connaître, d'étudier les pièces pour marionnettes. Et ça a l'air simple à dire comme cela, mais en fait, c'était une question assez gigantesque, parce que tout simplement, ces pièces, on ne les connaît pas. La plupart des marionnettistes que j'ai pu interroger, y compris des grands chercheurs ou des personnes qui avaient derrière eux des dizaines et des dizaines d'années de réflexion sur la marionnette. Je me souviendrai d'une que je ne nommerai pas, mais qui j'ai évoqué ce projet que nous avions, et qui me dit, mais les textes pour marionnettes, non, les canevas peut-être, ça n'existe pas, les textes pour marionnettes. Bon, alors elle était anglaise. Si elle avait été italienne, elle m'aurait dit oui. Et effectivement, en Angleterre, il y en a très peu. Mais en Italie, dans chaque ville du nord de l'Italie, il y a des centaines et des centaines, enfin Francesca le connaît bien, de manuscrits qui ont été conservés justement par les compagnies sur plusieurs générations avec ce système des familiers d'art et des familles de l'art. Et donc ce sont des trésors, des trésors absolument inexploités parce que ce sont des manuscrits, mais conservés dans toute une série de collections, de musées, de bibliothèques. Je donne souvent ce chiffre pour donner juste un peu la perception de qu'est-ce que ça peut être l'écriture pour marionnettes. Mais il y avait, au milieu du XXe siècle, dans les années 30 à 60 à peu près, un marionnettiste dans la vallée du Pô, qui allait de village en village, et qui s'installait dans ce village, dans un quartier populaire aussi, et là restait... souvent pendant plusieurs mois, et il représentait en marionnette à Gaines le répertoire des grands poupies de Palerme, c'est-à-dire les épopées de Charlemagne en 80, 100 épisodes, hein, chaque soir.
Oui.
Spectacle absolument pas comique, hein, héroïque, épique, mais voilà, c'est ça. Et à sa mort, il a laissé une collection. Alors, il n'y avait pas que ses textes, il y avait ceux des autres aussi, mais il a laissé une collection de plus de 3000 manuscrits. Francesca, à Bologne, dans toute une série de villes, à Parme, etc., tu as vu aussi des centaines et des centaines de copioni, comme on dit en italien. Donc, j'avais un peu connaissance de ça, mais je ne me rendais pas compte de l'importance de cet héritage. Et puis, il est vite apparu qu'effectivement, à partir de quelques sondages, qu'il y a aussi, au musée Gadagne, à Lyon, des milliers de textes pour marionnettes, quelques-uns publiés, enfin, une grande collection de livres publiés, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de manuscrits. Il y a 1400 textes pour Guignol, par exemple. Il y a à Munich, où il y a un grand musée, j'ai aussi posé la question, on m'a dit oh, 1000, 1500, c'est pas trop. Effectivement, quand on a vu l'état de leur catalogue, on a compris que c'était vraiment très très difficile à recenser. Mais bon, des petites fiches cartonnées, voilà, classées par donateur, en plus, sans catalogue général, donc c'est vraiment... vraiment terrible. Donc, nous avons réveillé, comme disait la conservatrice de ce musée de Munich, nous avons réveillé la Belle au bois dormant, parce qu'effectivement, c'est les musées, les bibliothèques conservent ces centaines ou ces parfois milliers de textes écrits pour marionnettes et n'en font rien, ne savent pas quoi en faire. Et donc, voilà, nous est enfin, le projet est donc né d'examiner une sélection de ces textes, bien sûr. Parfois, on est obligé de procéder par sondage, parfois plus systématiquement, et de réfléchir à cette question simple. Que représentaient, que jouaient les marionnettistes et même, que continuent-ils de jouer, que jouent-ils aujourd'hui? Puisque le projet, initialement, partait du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On a pu remonter un petit peu plus en arrière avec un texte de 1582, un texte allemand, une adaptation du livre de Jonas, écrite et publiée en Allemagne en 1582, et jouée par un marionnettiste, justement. Donc, voilà, nous avons construit donc, cette énorme base de données dont on parlera un petit peu demain, qui permet de circuler, justement, à travers ces textes. Alors, parfois avec un lien vers les textes eux-mêmes, parfois simplement une fiche descriptive, mais déjà, dans cette base de données, il y a 1000 textes qui sont décrits, donc sur lesquels on peut s'informer, qu'on peut découvrir. L'idée, c'était un petit peu celle que... Oui, mais on a tous plutôt le souvenir de ces encyclopédies d'autrefois, on était renvoyé sans cesse d'un article à un autre, etc. On pouvait passer l'après-midi entière à lire. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on l'a voulu assez piégeant, quoi, avec la possibilité de se promener, de se perdre, de partir d'un thème et puis de voir sa déclinaison dans différents textes, de partir d'un procédé, d'une technique.
Et Carole et Francesca, pardon Didier, vous avez pris part à l'immense projet. De quelle manière? Moi, je le sais, mais allons-y un peu. Carole.
Moi j'ai eu un rôle, un rôle multiple en quelque sorte, parce que j'ai assisté Didier, donc j'étais chargée de la coordination du projet, de coordination scientifique. Et puis j'ai aussi pris part à certains chantiers particuliers, par exemple sur le. Plus spécialement, et puis une des réalisations c'est un numéro spécial d'une revue qui est très très connue sur Shakespeare, la Renaissance anglaise, qui s'appelle Écailles élisabéthains, et donc j'ai co-dirigé avec une post-doctorante un numéro sur Shakespeare et les marionnettes, justement, et donc qui explorait à la fois des pièces qui avaient été, des réécritures de Shakespeare, ou bien des pièces qui étaient censées, même, il y a un mythe en Allemagne qui dit qu'il y a une pièce qui est très ancienne, qui daterait de la Renaissance, et qui serait peut-être soit de Shakespeare, soit de ses contemporains. Bon, c'est un mythe en fait.
Le mythe allait jusqu'à dire que c'était peut-être. Ah, ou Hamlet.
Voilà, c'était peut-être ce qui avait
Hamlet
pu
inspirer. Qui aurait pu inspirer Shakespeare.
Okay. Bon, je crois que c'est vraiment un mythe. Hein. Il est aussi question de la façon dont Shakespeare innerve aujourd'hui les pratiques, y compris les pratiques pour marionnettistes. Donc on aura l'occasion d'en parler demain avec Marie Carignon pendant la première table ronde, parce que c'est le travail aussi de la compagnie Tac Tac, qui a une trilogie Shakespeare. Mais par exemple, en discutant avec son père la semaine dernière au téléphone, Christian Carignon avait aussi fait un spectacle avec des objets à partir de Macbeth. Mmh. Et c'était Macbeth croisé avec... avec le petit chaperon rouge de Perrault, en fait, un tas d'objets. Donc, voilà, je vous dis juste ça pour ouvrir l'imaginaire.
Pour ouvrir pour demain.
Mais voilà, on voit aussi comment, effectivement, il y a un peu le même phénomène que dans les séries télé aujourd'hui, mm-hmm. qui s'emparent de scénarios, de personnages, qui croisent des intrigues, qui travaillent sur des intrigues multiples. Avec Shakespeare, donc on le voit, les séries Black Mirror ou d'autres sont
Game of Thrones.
Voilà, Game of Thrones, etc. Mm-hmm. Comment c'est nourri de tout ça et mm-hmm. comment aujourd'hui, dans les pratiques contemporaines, on retrouve cet usage effectivement de la pop culture. Donc voilà, c'était mm-hmm. c'est une partie du travail que j'ai fait pour le projet.
On connaît bien Tac Tac, enfin bien, on connaît Tac Tac, mais justement, j'y pense sur un. À la question du dinosaure, de la triple, quadruple métaphore, le vertige en fait sur 30 ou 40 secondes du nombre d'entrées que ça fait faire à l'écoutant, au récepteur, c'est formidable quoi. Et du coup, Francesca, nous on s'était vu cet hiver pendant les journées de l'édition théâtrale sur la parution en elle-même. Et dans le travail, ton rôle, ça a été
Ça a été justement celle des doctorantes. Donc, j'ai travaillé au sein du projet, en fait, dès ses débuts. Donc, au tout début, moi, j'ai rejoint Didier et Carole. Et donc, on a vraiment commencé à réfléchir ensemble à... Enfin, il n'y avait encore rien, non ? Donc, on a vraiment réfléchi à chaque petite chose qui un jour est devenue cette base de données. Et donc j'ai aussi un petit peu travaillé à la population de la base de données, donc avec mes autres collègues doctorants, post-doctorants, on lisait chacun un peu ses textes qui avaient à faire avec son propre sujet, et ensuite on faisait des résumés, et surtout ce qui était intéressant et une chose sur laquelle on a investi beaucoup, beaucoup de temps, c'était justement des discussions en équipe sur, par exemple, un seul texte pour décrire vraiment précisément quel type de technique a été utilisée, des techniques d'animation, mais aussi quel procédé dramatique, mais aussi un peu retracer l'histoire de ces textes, pas les scénarios, mais vraiment... tout son parcours dans l'histoire. Et donc, d'un côté, j'ai travaillé à ça, de l'autre côté, j'ai travaillé sur ma thèse qui justement a été publiée, sur les dramaturgies contemporaines pour la marionnette en France et en Italie.
En gros, ça fait quand même déjà à peu près une. Si je l'entends, et c'est ce que je souhaitais qu'on partage, en fait, il y a à la fois des axes très précis, comme l'entrée Shakespeare, il y a la plateforme, qui est vraiment le travail en anglais.
Collectif, en français
et
en anglais.
En français et en anglais. Et puis, il y a aussi la source résumée, synthétisée, critiquée aussi, peut-être avec une analyse critique, d'une partie des textes et leur voyage dans l'histoire. Ce qui fait que c'est un outil énorme, c'est un outil que vous partagez avec des écoles, avec des festivals, avec des artistes.
Alors en fait, donc d'abord la plateforme elle s'appelle puppetplace tout attaché .eu, donc elle est en français et en anglais, et effectivement elle est, ce n'est pas une simple base de données. Il y a plusieurs entrées, donc il y a une entrée base de données où on peut effectivement trouver toutes sortes de pièces, même si c'est, par exemple un marionnettiste qui aurait envie de, enfin qui chercherait une pièce sur une thématique ou selon certaines techniques ou bien d'un auteur, il pourrait la trouver et aller lire le résumé, avoir la liste des personnages, etc. Savoir s'il a été mis en scène, avoir aussi les indications de licence, donc de droit, est-ce qu'elle est sous droit ou pas, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a des techniques de manipulation, il y a des biographies d'auteurs, Il y a aussi une anthologie en ligne, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont disponibles en ligne, donc on amène le lecteur vers ces textes-là, ou bien on a pu numériser un certain nombre de textes, donc il est possible aussi d'aller les lire. Il y a aussi des publications du projet et des traces de tous les événements organisés par le projet, c'est-à-dire des colloques pour lesquels il y a des vidéos, des journées, toutes sortes d'événements qui ont été filmés, des conférences, des rencontres avec des artistes, des débats, et ce, dans toutes les langues. Les conférences, par exemple, pendant les colloques, les conférences en français ont été traduites en anglais. On a même des conférences en italien qui sont traduites en anglais et en français. Donc, en fait, on a voulu véritablement une plateforme qui soit totalisatrice. Et il y a même des parcours pédagogiques qui ne sont pas encore tout à fait en place, mais on est en train de
finaliser. Donc,
c'est un outil où il y a des ressources scientifiques, pédagogiques. En fait, et elle a été conçue aussi avec des artistes, avec des étudiants et des informaticiens. Donc, on a eu vraiment un travail collaboratif, pas simplement au sein de l'équipe, mais on a demandé à des personnes, enfin des marionnettistes comme Paolo Duarte, comme enfin d'autres, qui étaient sur notre territoire, de venir travailler avec nous, et ils se sont prêtés au jeu. Voilà, ils ont dit ce qu'ils attendaient.
Oui, tu parlais des écoles, mais effectivement, une des utilisations immédiates pour des gens qui sont dans l'enseignement et la transmission des arts de la marionnette, c'est que grâce à cette base de données, ils peuvent trouver immédiatement tous les répertoires que nous avons rassemblés pour la marionnette à Ken, pour la marionnette à fil, pour la marionnette portée. Voilà. Et on choisit une technique et puis on a la liste de tous les textes que nous avons recensés dans lesquels apparaissent ces techniques. C'est immédiat, si vous voulez. Il y a quelque chose qui peut, comme ça, effectivement, servir très facilement à des exercices. Après, je ne sais pas. En fait, demain, nous n'allons pas parler que de ce que
oui,
de ça.
C'est ce que j'allais te dire. Donc demain,
au cœur de la question.
À partir de ce socle-là,
oui,
demain...
Il y a déjà des conclusions que nous avons pu tirer, qui, à mon avis, sont des choses qui vont nourrir notamment la première table ronde. C'est le fait que ce ne sont pas exactement des auteurs comme les autres. Ou plutôt, la position de l'auteur n'est pas tout à fait la même. Traditionnellement, les marionnettistes écrivaient eux-mêmes leurs textes ou les adaptaient. Et donc le marionnettiste est en position généralement d'auteur. Et aujourd'hui aussi, ça s'est extrêmement revendiqué. Donc les questions sont un peu différentes. Le couplage, on va dire, et auquel vraiment en plus la chartreuse a beaucoup contribué, le couplage à marionnettiste, un écrivain, c'est une dimension plutôt contemporaine, qui ouvre immensément de perspectives et qui est très enrichissante. Enfin, on a beaucoup tenu à rendre compte de cette dimension-là dans la base de données, mais en même temps, c'est un déplacement aussi dont il faut rester conscient. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui fonde la complexité des arts de la marionnette, c'est qu'il faut penser, surtout dans la période contemporaine, à la fois la dramaturgie et puis le matériel scénique. Avec quoi on raconte? Avec quels objets? C'est ça que j'aurais voulu poser comme question d'ailleurs à nos amis Dominique et Jeanne, mais
ils seront là demain.
Mais voilà, sur le choix des objets et des choses intéressantes, il y avait des pierres, par exemple. Je ne sais pas exactement quelle valeur, quel potentiel il y avait pour eux derrière ces pierres, par exemple. En tout cas, j'ai adoré leur petit castellet. Mais
le castellet est un castellet, pardon Didier, utilisé et réutilisé, parce que Dominique. On a créé il y a deux ans le villa,
le Jean villa,
et c'était déjà ce castellet-là. Et ce castellet-là, il est vraiment, c'est un emploi durable, je dirais.
Oui, tout à fait réutilisable.
Tout à fait réutilisable, tout à fait dans les problématiques contemporaines. Et en effet.
Et ancienne. Dire, c'est aujourd'hui que les marionnettistes font des marionnettes rien que pour un spectacle. Avant, ils travaillaient avec leur fond de marionnettes et ils jouaient tout à partir de cela. Ce sont témoignent les manuscrits qu'on a vus du 19e siècle.
Donc demain, vous serez sur le déplacement, finalement.
Non, sur tous les déplacements.
Sur tous les déplacements.
Sur tous les déplacements. je crois.
Demain, c'est dans cette salle et sur tous les déplacements.
Oui, oui. Effectivement. Et bon, en gros, il y a une première table ronde le matin, justement, sur l'écrire marionnette, qui est coordonnée par, par Carole et qui a été impulsée aussi par le travail avec les fédérations régionales ici présentes et l'association nationale aussi. Elle-même ici présente avec... avec nous, donc on va plutôt être sur la question de dramaturgie. Puis l'après-midi, il y a donc la question des technologies numériques et de ce qu'elles peuvent déplacer justement dans le geste de construction du spectacle, d'élaboration même de la, je dirais, du projet artistique. Et la troisième table ronde porte sur le métier de constructeur, un métier un peu invisible aussi, comme l'était, enfin comme le sont aussi les textes pour marionnettes. Donc on essaie de faire monter en visibilité les différentes facettes du travail des marionnettistes avec cette première conviction, c'est qu'effectivement, il faut d'abord rendre compte de la variété de ces pratiques et de leur déplacement, justement, actuel aussi.
Et de leur inscription dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Sans se leurrer, je veux dire, effectivement, il y avait une multiplicité d'utilisation de la marionnette et puis en particulier au XIXe siècle, ça a été véritablement une énorme quantité d'activités. Juste un chiffre, les chercheurs allemands ont calculé que juste dans la région de la Saxe, au nord de l'Allemagne, autour de 1900, il y avait 150 compagnies itinérantes qui jouaient tous les jours, ce qui fait que globalement, ils avaient 2 millions de spectateurs par an.
Tout. En se promenant sur des tout petits, certainement en étant aussi dans des castelets, des choses qui peuvent se faire.
Non, des théâtres démontables où il y avait 300, 400 spectateurs avec des marionnettes à fil, et on jouait des grands mélodrames, on jouait des comédies. Généralement, les programmes étaient souvent constitués d'au moins deux pièces, quoi. Une longue, sérieuse, un drame historique, un mélodrame, etc., puis une autre comique pour la fin de la soirée. Et c'est ces réalités-là qu'on a un peu oubliées. Dans le nord de la France, c'est hallucinant. Il y avait 50 théâtres de marionnettes à Lille, autour de 1900. Mais ces théâtres, c'était des caves, des arrière-boutiques, des chambres, des spectateurs s'asseyaient sur le lit, s'ils avaient payé un peu plus cher.
Le balcon.
On restait debout. Je veux dire, c'était vraiment un enracinement populaire extraordinairement fort.
Oui, en plus, ce qui était intéressant, c'est que justement, populaire dans le sens que tout le monde participait à ces types de spectacles. Donc, c'était pas pour un seul public, un jeune public ou seulement pour adultes. Enfin, si, il pouvait y avoir déjà des différences, mais en général, au moins dans ces situations-là, il y avait vraiment un partage.
Et puis jouer l'après-midi éventuellement pour le public scolaire ou disons enfants et familles, et puis le soir éventuellement rien que pour les hommes aussi. Il y a ça aussi en Sicile, où on jouait aussi justement les épopées de Charlemagne tous les soirs. Le public était uniquement masculin, enfants ou adultes, mais uniquement masculin. Et le week-end, le dimanche, il y avait des représentations pour un public mélangé, hommes et femmes, mais là, on ne jouait plus les grandes épopées, on jouait des adaptations de Shakespeare, justement, par exemple, ou des opéras, etc.
C'est fabuleux, ça. Ça raconte, évidemment, sociologiquement et anthropologiquement, si on veut le regarder du point de vue, en fait, de ce qui est de la réception, c'est formidable. Bon, ben, j'espère que ça vous a alléché, si vous n'étiez pas déjà décidé à venir.
Oui, parce que c'est ouvert, tout de même.
Comment ?
C'est ouvert.
C'est ouvert, c'est bien rempli. C'est bien rempli.
Mais c'était mais c'est sur ouvert. Inscription.
Moi, je vous propose, à moins qu'il y ait une question ou des questions, je fais bien attention qu'on ait le temps d'aller prendre encore un verre au café de manière libre.
À l'apéritif.
Libre. Et bien sûr... aussi de se dire que peut-être pour celles et ceux qui ne seraient pas là demain ou qui ne pourraient pas venir, on puisse avoir, nous, sur le site, une synthèse, mais dans une petite dizaine de jours.